Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Marie Duhamel.
Audience confirmée par le bureau de presse du Saint-Siège, le président français sera bien reçu le 24 janvier prochain par le pape au Vatican. On y revient dès le début de cette émission. L'amour chrétien, ce n'est pas du romantisme à l'eau de rose comme dans les telenovelas. Pour le pape, l'amour chrétien est altruiste et bienveillant. Il faut se retrousser les manches, s'occuper des pauvres. François l'a dit lors de son homélie ce jeudi à Sainte-Marthe. À quelques jours de la journée pour les réfugiés et les personnes en déplacement, célébrée le 19 janvier prochain, nous donnons la parole au père Lorenzo Principe. Il dirige en France le service national de la pastorale des migrants et des personnes itinérantes. Et puis enfin, nous irons en Asie, en Malaisie, au Bangladesh, mais aussi aux Philippines, où se trouve en ce moment le cardinal Turkson. Le président du Conseil pontifical Justice et Paix veut que les catholiques s'engagent en politique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine en langue française de Radio Vatican. Je vous le disais en titre, la nouvelle a été annoncée officiellement par l'Élysée, confirmée par le bureau de presse du Saint-Siège. Le chef de l'État français, François Hollande, sera reçu en audience par le pape François le 24 janvier prochain en la fête liturgique de Saint-François de Sales. En novembre dernier, Nicolas Hulot, envoyé spécial du président français pour la protection de la planète, avait indiqué avoir transmis au Vatican une demande de François Hollande en vue d'une audience avec le pape. Tout de suite, les explications de Romilda Ferraotto.
François Hollande s'est déjà rendu à Rome à plusieurs reprises depuis son arrivée au pouvoir en mai 2012, mais jamais au Vatican. Cette visite ne figurait pas parmi ses priorités. Le gouvernement socialiste français entretient des rapports délicats, souvent crispés avec le monde catholique. Ce dernier s'est fait entendre sur la loi Taubira, l'euthanasie, l'avortement. Les sujets de discorde ne manquent pas et le désamour est palpable. Mais pour les chefs d'État français, la visite au chef de l'Église catholique est un passage obligé, confie un conseiller du président au quotidien Le Monde. Depuis le général de Gaulle, à un moment donné, il faut aller voir le pape. Seul Georges Pompidou s'était abstenu. En 2007, en revanche, Nicolas Sarkozy était venu très solennellement prendre possession du titre de chanoine d'honneur de Saint-Jean de Latran, qui revient depuis plus de 4 siècles au dirigeant français. Il avait alors développé son concept de laïcité positive dans un discours remarqué qui semblait vouloir réconcilier la République laïque et l'Église catholique. La visite de François Hollande devrait être brève, simple et sobre. On sait que le Vatican s'inquiète du sort des minorités chrétiennes en Afrique, comme au Moyen-Orient. Sur ce plan, des convergences pourraient s'établir.
Précisons que de très nombreux chefs d'État et de gouvernement sont reçus au Vatican. Parmi les derniers en date, Benjamin Netanyahou, qui invitait le pape en Israël. François s'y rendra d'ailleurs fin mai, mais aussi Vladimir Poutine. Avec le président russe, les entretiens avaient porté notamment sur la question du conflit syrien. Dans le nord de la Syrie, des combats opposent toujours les rebelles opposés à Bachar el-Assad aux membres de l'État islamique en Irak et au Levant. Les djihadistes proches d'Al-Qaïda ont été délogés de la ville d'Alep, perdent du terrain à Raqqa. Ils avaient pourtant déclaré une guerre totale à leurs anciens alliés. Guerre totale aussi en Irak, l'antenne locale d'Al-Qaïda a profité d'un conflit ouvert entre le gouvernement contrôlé par les chiites de Nouri al-Maliki et les tribus sunnites de Fallujah pour prendre le contrôle de cette ville, située non loin d'ailleurs de la frontière syrienne. Il l'occupe depuis samedi, provoquant un exode. Selon le Croissant Rouge irakien, plus de 13 000 familles ont déjà fui cette localité qui compte quelques 500 000 habitants. Nous avons joint à Bagdad Pavel Chikchek, porte-parole de la Croix-Rouge internationale. Il évoque au micro d'Hélène des Tombes une situation qui se détériore de jour en jour.
La situation est difficile, bien sûr. Il y a des confrontations. Les personnes civiles sont frappées dans la ville de Fallujah. À cause de ces combats-là, il y a des gens qui souffrent. Nous, hier, on a commencé la distribution pour les personnes déplacées à l'ouest de Fallujah. Les gens ont besoin de la nourriture. Il y a des problèmes avec l'électricité, avec de l'eau. Et les magasins finissent très très vite des produits. Les prix des produits, de la nourriture sont hauts. Et si par exemple, les coupures d'électricité continuent, et si, par exemple, les médecines n'arrivent pas à Fallujah, peut-être des hôpitaux auront des problèmes pour donner les soins adéquats à personnes blessées. Et voilà, donc il y a des besoins, bien sûr, si les confrontations continuent, on peut aussi attendre que plus de personnes vont se déplacer vers différentes villes à côté de Fallujah.
L'amour chrétien a pour caractéristique d'être concret. C'est un amour qui est plus dans les œuvres que dans les paroles, qui est plus dans le fait de donner que de recevoir. Voilà ce qu'a réaffirmé ce jeudi matin le pape François durant l'homélie de la messe quotidienne présidée en la chapelle Sainte-Marthe. L'amour chrétien, a-t-il expliqué, ce n'est pas du romantisme à l'eau de rose, celui des telenovelas. S'il ne s'agit pas d'un amour altruiste, bienveillant, qui se retrousse les manches en préférant donner plutôt que de recevoir, eh bien cela n'a rien à voir avec l'amour chrétien. Tiens, nous sommes en Dieu, Dieu est en nous. Le pape a invité les fidèles à ne pas rester dans l'esprit du monde, dans la superficialité, dans l'idolâtrie et dans la vanité. Non, il faut rester dans le Seigneur avec un cœur doux et non endurci. Il nous faut un cœur nouveau après une histoire douloureuse, extrait de l'homélie prononcée ce mercredi par le cardinal Velasio de Paolis à l'ouverture du chapitre général de la Congrégation des Légionnaires du Christ après 3 ans de mise sous tutelle. 61 prêtres délégués venus principalement des Amériques procéderont durant les 3 prochaines semaines à la rédaction des nouvelles constitutions. Ils espèrent retrouver une autonomie, une stabilité. C'est ce qu'a expliqué le cardinal de Paolis. Il s'est longuement entretenu avec le directeur de Radio Vatican, le père Federico Lombardi. On y revient tout de suite avec Jean-Baptiste Cocagne.
Le cardinal de Paolis précise que son travail a consisté plutôt à guider le renouveau de la Légion du Christ en comptant sur l'authentique engagement religieux de la grande majorité de ses membres. Les points centraux de la révision des constitutions concernent l'autorité et son exercice dans le gouvernement et dans la vie de la communauté. Autre point important, la réflexion sur le patrimoine de l'Institut. Se profile ainsi une vocation à vivre le mystère de Jésus qui annonce le règne avec une piété eucharistique et mariale vive et une orientation apostolique. Le cardinal de Paolis précise que dans cette perspective, il est très important de voir la Légion non pas comme une réalité isolée, mais insérée dans le contexte plus ample du grand mouvement du Regnum Christi. Le délégué pontifical détaille ensuite les 3 temps qui vont structurer ce chapitre général extraordinaire. Il y aura d'abord un examen de conscience sur le passé, avec une vérification du chemin parcouru et une dimension pénitentielle, puis la nomination des nouveaux supérieurs et enfin le travail sur la révision des constitutions. Le nouveau texte de ces constitutions sera ensuite présenté au pape pour une approbation définitive.
Aux Philippines, des sénateurs sont en ligne de mire, accusés d'avoir détourné des fonds publics destinés au développement de leur région en plein scandale dit du porc barrel. Le cardinal Turkson invite les catholiques à s'impliquer dans la vie politique. Former de bons catholiques pour qu'ils deviennent d'excellents politiques, c'est d'ailleurs la mission des universités du pays. Les universités catholiques, c'est ce qu'a affirmé le président du Conseil pontifical Justice et Paix en visite justement aux Philippines à l'occasion de la conférence nationale des associations des universités catholiques de l'archipel. Bernard de Cotigny revient pour nous sur son intervention.
Faire de la politique, ce n'est pas négatif, mais cela le devient quand les hommes politiques laissent s'installer le scandale et la corruption. Dès lors, c'est l'image de tout le secteur qui est entachée. Voilà pourquoi les catholiques s'éloignent de la vie politique. Voilà pourquoi, explique le cardinal Turkson, les hommes politiques cantonnent leur foi à leur vie privée sans la faire connaître. Aujourd'hui, la mission de l'université catholique est bien de former les croyants pour qu'ils s'engagent sur le terrain politique. Le travail des étudiants devrait être dédié à résoudre les problèmes qui menacent la coexistence et le bien-être des hommes. À l'université, 3 piliers. Le premier, la recherche de la vérité, qui explique le président du Conseil pontifical, permet de lire et d'interpréter les événements en étant capable de discernement, de voir la nécessité de la justice sociale dans des contextes concrets. Lieu de dialogue, l'université doit aider les élèves à se rendre compte que les intérêts les plus divers peuvent contribuer au bien commun. Deuxième pilier, les universités doivent enseigner aux dirigeants de demain le sens des responsabilités vis-à-vis des plus pauvres. Quelques semaines après le passage du typhon Haiyan, qui a fait des centaines de milliers de sinistrés, le prélat estime que l'option préférentielle pour les pauvres doit être une priorité politique. Les besoins des pauvres viennent avant tout processus législatif ou électoral, affirme encore le chef du dicastère. Un système politique sain, ajoute-t-il, est au service de la vie sociale de l'homme et cherche à s'assurer que cette vie soit caractérisée par des rapports d'amour et de justice. Troisième pilier enfin, plus concret, l'instruction afin de former des personnes compétentes pour qu'elles soient en mesure, une fois lancées dans la vie, d'harmoniser les valeurs spirituelles et les sciences, les techniques et leurs professions.
La conférence s'achèvera samedi prochain à Davao City. Et puis toujours aux Philippines, mais cette fois sur l'île de Mindanao, au sud, depuis la prise de la ville de Zamboanga en septembre dernier par le Front Moro de Libération Nationale, un groupe armé musulman, eh bien un malaise demeurait sur place entre les 600 000 catholiques et les 200 000 musulmans, indigènes ou croyants d'autres confessions qui habitent cette ville. Et pour désamorcer les tensions, reconstruire l'harmonie au sein de la communauté civile, le conseil municipal de la ville a approuvé une ordonnance instituant un conseil interreligieux doté d'un budget de 32 000 euros environ par an. Le nouveau conseil aura pour fonction de formuler des recommandations au conseil municipal afin que ce dernier puisse adopter des politiques pluralistes et non discriminatoires. En Malaisie, le rédacteur en chef du Herald, l'hebdomadaire de l'archidiocèse catholique de Kuala Lumpur, a été entendu par la police pendant 2 heures mardi. Il lui est reproché d'avoir critiqué l'ingérence des musulmans dans la gestion des affaires chrétiennes, sur l'usage notamment du mot « Allah » lors de messes célébrées en malais dans la capitale. Les propos du prêtre avaient provoqué une centaine de plaintes des malais estimant qu'il avait violé une loi de 1988 de l'État de Selangor interdisant aux non-musulmans d'utiliser certains termes récurrents dans l'islam, dont « Allah ». En Malaisie, il faut dire que la loi n'est pas très claire, la liberté religieuse étant également protégée par la constitution du pays. Il représente 10% de la population en Malaisie, à peine 0,5% au Bangladesh. Dans la capitale, à Dakar, une église a été touchée récemment par une bombe, mais les chrétiens ne sont pas visés, explique l'archevêque de la capitale. Les chrétiens malais veulent être, dit-il, porteurs d'un message d'espérance dans un contexte de violence et de confusion. Au lendemain des élections, l'archevêque s'inquiète pour la démocratie, l'opposition ayant boycotté le scrutin. Il s'inquiète aussi pour le danger représenté par l'islamisme militant et radical qui a commencé, dit-il, à se donner des objectifs politiques. L'Église catholique en France se prépare à célébrer la 100e journée mondiale du migrant et du réfugié qui se tiendra le 19 janvier prochain. Les évêques de France ont ainsi organisé ce mercredi une conférence de presse pour rappeler le sens de cette initiative qui vise à sensibiliser les communautés chrétiennes à la question de la migration, à promouvoir aussi des occasions de rencontres, d'échanges avec les migrants. Au programme de cette journée, des célébrations dans de nombreuses paroisses, mais aussi des moments de partage, justement, entre personnes de différents pays. Cette année, le pape François propose une réflexion sur le thème « Migrants et réfugiés vers un monde meilleur ». Nous en parlons avec le père Lorenzo Principe, directeur du service national de la pastorale des migrants et des personnes itinérantes.
Un monde meilleur, c'est une invitation que le pape François nous fait, pas seulement aux migrants, aux réfugiés, mais qui fait à tout le monde. Et tous nous sommes concernés par ce monde meilleur à bâtir. Donc on peut le bâtir dans deux perspectives, ou dans une perspective d'exclusion, et c'est ce que normalement on fait dans nos attitudes, dans nos choix politiques, sociaux, économiques, ou on peut le bâtir, c'est l'invitation, le défi et la proposition du pape, en créant les fondements pour réaliser une culture de la rencontre. Donc un monde qui se base sur la capacité de se connaître, sur la capacité de se reconnaître entre personnes différentes, sur la capacité d'avoir envie chacun d'apporter sa contribution et d'avoir envie de collaborer, de créer des formes de communion, des formes de partage, des formes de solidarité qui sont toujours nécessaires pour que ce monde puisse vraiment être meilleur pour tous.
Depuis le début de son pontificat, le pape François a fait de l'attention et du respect aux migrants et réfugiés l'une de ses priorités. Cela a-t-il changé le regard que beaucoup posent sur les migrants et les réfugiés ?
à mon avis, doucement, ça peut changer les attitudes, les comportements et même les pensées et les paroles de beaucoup de chrétiens. Je vous donne seulement des petits exemples dont j'ai eu connaissance ici en France. Depuis que le pape François il a invité à prendre soin de cette réalité, il y a eu pas mal d'évêchés, pas mal de congrégations religieuses, de paroisses qui avaient des locaux désaffectés, qui ont permis dans ces locaux l'accueil et le logement au moins temporaire de migrants et de demandeurs d'asile en attente de l'examen de leur demande. Donc ça change, ça commence à changer et je pense qu'il faudra poursuivre dans cet esprit.
Vous avez le sentiment que l'émigration, le phénomène migratoire, est aujourd'hui plus encore que dans les années précédentes un sujet délicat, un sujet tabou.
Il est toujours délicat, c'est-à-dire dans les pays du Nord, on regarde toujours, mais ça depuis les années 70 du siècle dernier, aux migrations comme une source de menaces, une source de problèmes, une source d'attente à ce qui est la souveraineté nationale et à ce qui est l'identité des peuples autochtones. Et donc, quand on est confronté aux migrants, hommes et femmes, enfants qui arrivent chez nous, toutes ces arrière-pensées, tous ces stéréotypes, toutes ces stigmatisations, elles reviennent toujours à l'esprit. À mon avis, le travail d'une église, le travail d'une société qui se veut capable de construire relations et pas de les détruire, c'est justement de démonter les raccourcis, de démonter les stéréotypes, de démonter toute forme de peur et toute forme de méfiance par rapport à la rencontre de l'autre.
Nous célébrerons le 19 janvier prochain la 100e journée mondiale du migrant et du réfugié. Comment cette journée a-t-elle évolué depuis sa création ?
C'est une journée, rappelons qu'elle a été pensée à la veille du premier conflit mondial. Guerre mondiale qui a causé des milliers de déplacements, des milliers de réfugiés, des milliers de personnes obligées à quitter leur territoire d'origine. Donc c'était dans ce contexte que la journée est née. Et c'est, je dirais, dans ce contexte que la journée évolue. Aujourd'hui, à distance de 100 ans, nous sommes dans un monde où l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan, le Mali, le Centrafrique nous rappellent toujours que les violences, les guerres, les conflits sont toujours à l'heure. Et donc, les réfugiés, les demandeurs d'asile, les personnes obligées de s'enfuir s'accroissent de plus en plus. Nous n'avons pas des milliers aujourd'hui, nous avons 2 millions de personnes qui se déplacent. Et donc, dans ce contexte-là, effectivement, la journée mondiale a toute sa place et a tout son objectif à rejoindre. Alerter les personnes, sensibiliser les personnes et les sociétés, inviter les communautés de foi à l'ouverture et inviter les sociétés et les églises à faire de la place aux migrants, même qui n'ont pas la même religion, aux migrants qui ont besoin d'être soutenus matériellement, spirituellement et culturellement. Donc la journée mondiale, c'est l'occasion pour les paroisses, les associations, les diocèses de la rencontre, de la reconnaissance, du partage. Le partage des idées, mais aussi le partage du repas, le partage des traditions, le partage des coutumes, le partage de ce que chacun apporte dans un monde meilleur qu'on est en train de bâtir.
Des propos recueillis par Hélène Destombes. Enfin, aux États-Unis, à Chicago, on apprend que tous les dossiers de l'archidiocèse détaillant les abus sexuels commis par des prêtres seront transférés le 15 janvier prochain au ministère public chargé de la poursuite de ces affaires. Les documents qui contiennent aussi des informations sur les hauts membres du clergé accusés d'avoir couvert certains cas seront mis à disposition du public une semaine plus tard. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet sur notre site internet www.radiovaticana.va. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre page Facebook Radio Vatican en français et à notre compte Twitter newsva.va. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, pour un nouveau magazine.